L'Europe, le moment de vérité. Cinq grandes voix des idées prennent position toute cette semaine sur l'état de l'Union. Après Géraldine Schwartz, essayiste franco-allemande, hier auteur des Amnésiques et avant de retrouver Régis Debray demain pour son Europe fantôme. Deuxième épisode aujourd'hui, l'Europe est-elle en guerre contre elle-même? On en parle avec notre invitée, la psychanalyste et historienne Elisabeth Roudinesco, directrice de recherche à l'université Paris 7, auteur entre autres d'une histoire de la psychanalyse en France en deux volumes, d'une biographie de Lacan et d'une autre de Freud. Dans le cadre du cycle de conférences à l'École normale supérieure organisé l'an passé sur le thème « Une certaine idée de l'Europe » dont les actes seront publiés le mois prochain, le 1er mai, chez Flammarion, réunissant des contributions de Patrick Boucheron, Antonio Negri, Thomas Piketty ou encore Myriam Revaud-Dallone, elle s'est penchée sur l'inconscient européen par lequel bien des choses ont enfanté leur contraire, écrit-elle. Une conférence intitulée « L'Europe, un bonheur tragique ». Bonjour Elisabeth Roudinesco.
Bonjour.
À vous lire, l'Europe aurait un inconscient. Mais alors lequel? Est-ce que ce serait celui de ses fondateurs, celui du peuple européen, si tant est qu'il existe, qu'il habite?
Oui, c'est une image que j'ai prise parce que bien entendu, il y a toujours quelque chose d'inconscient dans l'histoire. Ce qui me frappe, d'ailleurs, il faut remercier Gilles Gressani du groupe d'études géopolitiques qui a organisé ces prestigieuses conférences. J'ai lu à peu près tout. Et tout le monde dit un peu la même chose. L'idée d'Europe est bien dans l'inconscient des peuples européens. Que ce soit l'Europe spirituelle, Moyen-Âge, puis l'Europe intellectuelle, celle qui nous intéresse le plus du 19e siècle, de Freud, de Stefan Zweig, puis d'une première quart du 20e siècle, l'Europe laïque, l'Europe des cafés, surtout l'Europe des villes, c'est une chose intellectuelle. Et ensuite, on a évidemment l'Europe strictement économique. Et ça ne va pas du tout, on le voit, parce qu'il n'y a plus rien de l'âme de l'Europe, ou de ce qu'était cette Europe qui était dans nos têtes spontanément, à travers des grands penseurs, que ce soit Husserl, Kant avait commencé, enfin, c'est tout. Et puis, on n'a pas fait l'Europe politique non plus, on n'y arrive pas à cause de tous les démons de l'Europe. Mais une chose est en tout cas commune, c'est l'Europe contre elle-même. Il y a toujours l'Europe contre elle-même. Quand rêve de la paix perpétuelle, il y aura la guerre. Il y a l'Europe des populismes, l'Europe des nationalistes. L'Europe des nationalistes qui a donné la Première Guerre mondiale, la plus grande boucherie, la plus épouvantable par certains côtés. Parce qu'il n'y avait pas de sens à ce que les peuples d'Europe s'entretuent. C'est pas du tout la même chose que la Deuxième Guerre mondiale, où c'était contre le nazisme. Et puis l'Europe a produit quelque chose de très extraordinaire. D'abord, elle s'est exportée à travers les droits de l'homme. Au fond, aujourd'hui, en histoire, on considère qu'on annexe à l'Europe géographique ce qu'on appelle les sociétés occidentales, c'est-à-dire l'Amérique latine, les États-Unis, ça c'est les sociétés occidentales construites à partir de l'idée de démocratie héritée en quelque sorte à la fois de l'Europe chrétienne mais de l'Europe grecque, de l'Europe ancienne. Donc on annexe au fond une Europe à la fois judéo-chrétienne, laïque, issue de la Révolution française et des droits de l'homme, dont une partie de la Russie fait partie. Il n'y a pas seulement géographique. Et surtout, il y a plusieurs Europes, en effet, et on le voit tout le temps. Je prendrai un exemple qui est revenu à plusieurs reprises dans les conférences. L'Europe, et je dirais alors la France, évidemment, et l'Angleterre, ont produit le colonialisme, c'est-à-dire quelque chose d'affreux qui a fait qu'on a massacré des peuples autochtones, qu'on a importé quelque chose de l'oppression, mais qu'elle a enfanté aussi l'anticolonialisme, c'est-à-dire la manière de lutter contre ce qu'elle avait elle-même fait. Donc c'est un mouvement dialectique en permanence. Et on est au cœur de ça aujourd'hui, parce qu'on a des souverainistes qui en fait veulent l'Europe des nations, des fédéralistes qui veulent la disparition de toutes les frontières, ce qui est absolument impossible. Et surtout, on a une Europe économique qui est vécue comme contraire, à juste titre d'ailleurs, aux aspirations des peuples à la différence. Pour faire l'Europe des Lumières telle que nous la rêvons, il faut et les différences et l'universel.
Voilà, donc on se met à votre place en vous lisant, en se disant effectivement pas facile d'analyser, de psychanalyser une entité aussi abstraite que l'Europe.
C'est pas ce que j'ai fait.
C'est pas ce que vous l'avez fait. Vous l'avez pas en tout cas entrepris en traitant l'Europe comme une réalité, plutôt comme une idée ou comme une dialectique, comme vous venez de l'évoquer, Elisabeth Roudinesco. Il y avait pour vous un besoin aussi urgent de réinvestir cette question. C'était ça le sens de cette série de conférences que vous avez données, réactiver le débat d'idées pour penser l'Europe comme une question pleinement politique, réincarner cette institution qui ne l'est pas et dont certains tirent profit aussi de cette désincarnation.
Mais oui, bien sûr. C'était l'idée d'ailleurs. Moi, on nous a invités, hein, il faut pas. Du coup, ça m'a permis de me pencher sur l'Europe. En ce qui me concerne, je suis tellement européenne, compte tenu de mes origines et de l'objet sur lequel je travaille, puisqu'Analyse est européenne au départ. Ensuite, elle est internationale. Mais Freud est un Européen convaincu. Le premier mouvement psychanalytique à Vienne, c'est des Juifs, des Lumières, de la Haskalah, de tous les empires. Ensuite, ça va annexer d'autres. C'est une production typiquement européenne, de gens qui voyagent, qui vont partout. Quant à moi, mon père, qui venait de Roumanie, qui avait immigré en 1904, il était complètement européen. Il voyageait, était très vieux quand je suis née, mais il voyageait dans toute l'Europe. Quant à ma famille maternelle, était européenne, là je rappelle évidemment ma tante Louise Weiss, qui a été souvenir d'une enfance, elle était profondément européenne, même si c'est pas du tout la même Europe que moi. Mais donc, moi je suis née avec l'Europe. Je me suis sentie européenne tout de suite. Et d'où en effet, ça m'a fait plaisir d'avoir à le réaffirmer. Mais c'est quoi? Pour moi, je suis beaucoup plus, évidemment, comme George Steiner, c'est l'Europe des cafés, l'Europe des villes, le phénomène purement urbain. Là, je reviens à la psychanalyse, c'est un phénomène urbain, la psychanalyse. Hein. Ça ne peut être que les sujets décentrés de leur territoire, de leurs racines, pour lesquels l'histoire est inconsciente, hein, c'est aussi ça. C'est un phénomène urbain. La confrontation avec soi-même, c'est l'arrachement au territoire, en quelque sorte.
Et le café, la ville, oui. C'est un lieu de carrefour, le lieu de croisement et un lieu de discussion aussi.
Tout à fait.
Mais alors comment ne pas être nostalgique de cette Europe telle que l'a rêvée, par exemple, un écrivain comme Thomas Mann, 1949.
Il y a trop longtemps que j'ai eu l'occasion de parler à des Français dans leur langue. Et c'est pourquoi j'en ai eu un peu perdu l'habitude. Dois-je vous dire que, comme tout Européen, tout Allemand civilisé, je suis plein d'admiration reconnaissante pour la culture, la littérature française, pour le génie français. Mon œuvre, ainsi que celle de la plupart de mes collègues contemporains, ne serait pas concevable sans les grands modèles que la France, au cours des siècles, a présentés à l'Europe. Pendant toute ma vie, j'ai été un écrivain allemand qui désirait une Allemagne européenne. Très contrairement à certains Allemands hantés par le rêve exécrable d'une Europe allemande.
Voilà, d'une Allemagne européenne à une Europe allemande, une Europe faite d'échanges culturels et de partage de connaissances, telles que l'a rêvé Thomas Mann et d'autres. Hein. Cette Europe aussi de la Mittel Europa, qui était décrite par Stefan Zweig dans Le Monde d'hier, que vous citez, et qui a porté de grands mouvements d'émancipation du socialisme au féminisme. Cette Europe qui a vu pousser Freud, mais qui a aussi, Elisabeth Roudinesco, accouché du nazisme, de la guerre. Il est là le bonheur tragique de l'Europe.
C'est exactement ça. Quelle archive superbe vous avez sorti là. Moi, c'est mon écrivain préféré avec Stefan Zweig. J'ai fait de l'allemand en première langue, tellement en étant né après la guerre, il était absolument nécessaire pour des Français de reconquérir la culture allemande qui avait été détruite au fond par le nazisme, ce qu'a très très bien montré Thomas Mann. Oui, bien sûr, c'est toujours un bonheur tragique. Je reviens bien sûr à Saint-Just. Le bonheur est une idée neuve en Europe. Elle n'a pu naître qu'avec les révolutions, des révolutions qui sont évidemment, ne peuvent pas ne pas être sanglantes à un moment donné, puis ensuite on reconstruit. Bon, évidemment, le rêve de Victor Hugo, très beau texte, demain sera possible l'Europe, etc. Donc il faut être à la fois nostalgique, parce que si on ne pense pas le passé, on peut penser ni l'avenir ni le présent. Donc oui, nostalgique de l'idée d'Europe. Et en même temps, je crois que, si je peux me permettre, il faut pas désespérer bien court ça. Il faut pas désespérer l'avenir. Je pense profondément que, inconsciemment, dans les peuples d'Europe, l'idée d'Europe est inscrite. C'est évident. Les voyages, les circulations, les accords internationaux, pas seulement chez les intellectuels, je parle là de l'Europe continentale, hein, mais enfin, l'Angleterre aussi, mais l'Europe continentale, en tout cas, je crois que les gens sont profondément européens. Ce qui diverge, c'est quelle Europe ? Quelle Europe ? Mais l'idée d'Europe est maintenant inscrite. Donc, et nostalgie, bien entendu, pour les grands Européens d'autrefois, qui ont été victimes eux-mêmes du nazisme. Mais c'est vrai qu'elle a produit l'Europe. La pire des choses, c'est le génocide des Juifs, elle a produit le colonialisme, mais elle a produit aussi la critique de ce qu'elle avait produit. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier ça. Alors, quant à la France, j'ai toujours pensé, avec Brodel, qu'il y avait vraiment... deux France, c'est le seul pays d'Europe qui est comme ça, une espèce de clivage qui est né évidemment, mais il est antérieur aussi. Enfin, disons à la Révolution française, il y a vraiment la France de Valmy, et puis il y a la France des, il y a la France des aristocrates. Ensuite, il va y avoir la France réactionnaire, la France de la fin du siècle, anti-dreyfusiste, puis la France dreyfusiste. Ensuite, il y aura la France pacifiste autour de Jaurès, même des surréalistes, et puis la France guerrière nationaliste. Il y a la France antisémite et la France capable de lutter contre l'antisémitisme. Et je crois que ça c'est très particulier. Je crois qu'il y a encore, peut-être pas pour longtemps, mais il y a une exception française, c'est ce clivage-là. Ailleurs, c'est moins fort. Il n'y a pas à ce point quelque chose de binaire.
Mais vous évoquez aussi le pessimisme.
Et puis la France de Pétain, oui. Qui est une horreur. C'est quand même la France. Là, on était à Vichy, on n'était pas à Valmy. J'ajoute aussi qu'aujourd'hui, on a en France un retour des pires idées de l'extrême droite qui refait surface et qu'il faut savoir combattre.
Vous évoquez aussi le pessimisme à la française, ouais. Comme si la France n'avait pas digéré cet affaiblissement de ses structures, de son modèle aussi, alors par le haut, par l'Europe, et puis ce délitement qui est arrivé avec les années, la perte de son modèle républicain, fondé sur un État fort quand même, et qui est mal digéré pour vous encore aujourd'hui ?
Je suis pas sûre qu'il soit perdu. Je suis bien sûr qu'il soit définitivement perdu. Il va se réformer. Ce qui est très frappant en France, c'est que c'est quand même un des pays d'Europe où on vit le mieux. Et même le monde entier nous le dit. Il y a des lois sociales qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a des lois sur la santé qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a l'école gratuite. Il y a beaucoup de choses. Évidemment, je crois que le pessimisme français, évidemment on l'a vu avec ce qui s'est passé récemment et les revendications des gilets jaunes, on ne veut pas perdre ce qu'on a acquis. Et ça, pour être fondu dans une Europe strictement ultralibérale ou une Europe des chiffres, je dirais. Pourtant, la France est un des pays les moins inégalitaires par certains côtés, quoi qu'on en dise. Donc, il y a une dialectique permanente, en effet, entre ce pessimisme et cet optimisme. On produit aussi les deux. Et par moments, comme je voyage beaucoup à l'étranger et que je parle de l'Europe, on me dit souvent, mais enfin, j'aime mieux vivre en France qu'ailleurs. Et c'est vrai. Il y a une aspiration des peuples à la France, pays des droits de l'homme. Alors, oui, on perd des choses. Mais je ne crois pas que ce soit fini, moi. Rien n'est jamais fini.
La réalité, c'est quand même qu'après la Seconde Guerre mondiale, on a pensé l'Europe comme un grand marché. Oui. Si on en revient à la naissance de l'Europe, aux sources, on trouve ce grand marché du charbon et de l'acier formulé par Jean Monnet. Résultat, 20 ans après sa fondation, on entendait déjà les partisans d'une Europe sociale plus protectrice se casser les dents sur cette Europe telle qu'elle avait été pensée. Je vous propose d'écouter les mots de Michel Rocard, alors secrétaire national du PSU en 1972.
L'Europe que l'on nous fabrique telle qu'on la nous fabrique est délibérément paralysée au niveau de sa capacité d'organiser La sécurité des travailleurs, la lutte collective contre la pollution, bref, de prendre des mesures hostiles aux décisions des très grandes entreprises. Le résultat, c'est qu'on appelle Europe un ensemble de pays qui n'ont fait ensemble qu'un marché commun, au sens strict du terme, c'est-à-dire une zone ouverte à toutes les interventions, toutes les décisions quelconques et parfois toutes les malversations des très grandes entreprises. L'exemple le plus récent, le Trust Philips, dans son conseil d'administration, a annoncé récemment qu'il allait licencier 20 000 personnes sur les deux ans qui viennent. 20 000 personnes sur l'ensemble de ses 150 usines en Europe, dont une vingtaine sont en France. Décision qui prend seigneurialement depuis son siège d'Eindhoven en Hollande, sans consulter personne, sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. Si l'Europe devient une construction dans laquelle la pression des travailleurs peut s'exercer pour imposer que ne soient pas prises des décisions de ce genre et que soient prises au contraire des décisions préservatrices de l'emploi, alors nous serons peut-être amenés, en effet, à dire oui. Mais en ce moment, le genre d'Europe qu'on fabrique, c'est la suppression des garanties statutaires dans tous les domaines, c'est la diminution des sécurités des travailleurs, c'est le droit total laissé aux grandes entreprises multinationales de faire absolument ce qu'elles veulent. Voilà le genre d'Europe qu'on nous fabrique. Permettez qu'à celui-là, on ne puisse que le refuser.
Voilà, là on était en 1972, à l'époque du Parti Socialiste Unifié. Michel Rocard dit ce qu'on entend encore aujourd'hui. Est-ce que le verre était dans le fruit pour vous,
Écoutez, il a parfaitement raison. On a l'impression d'un discours qui s'applique à aujourd'hui. On a raté pour le moment l'Europe politique, mais surtout l'Europe culturelle. Il a raison, le budget du ministère de la Culture en France, ailleurs, on n'a pas l'équivalent, mais en France, le ministère de la Culture, je crois que Jacques Lang le disait ce matin, non seulement il n'a pas augmenté, mais il a diminué. Et il n'y a pas d'Europe possible sans l'Europe de la culture, et l'Europe des universités et l'Europe de l'école. Et là, on est très très loin du compte. Elle a perdu son âme. Alors maintenant...
Et l'Europe sociale, ce qu'évoque Michel Rocard.
Sociale, ça
va ensemble. La solidarité aussi.
Les trois, il faut les trois. Oui. Une Europe économique du marché, ça ne va pas du tout, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas non plus... On n'a pas fait une Europe du communisme, c'était l'internationalisme. Bon, ça n'a pas marché. Hein. C'est clair qu'il y a aussi cet échec du communisme. Alors, on est en plein, en ce moment, en Europe... Les deux dangers, c'est le souverainisme qui mène à la guerre, le nationalisme qui mène à la guerre, et puis l'Europe commerciale qui mène à la bêtise et à l'asservissement des peuples qui sont moins éduqués. Et comme l'Europe est à la fois déchristianisée, désengagée, je parle du peuple, désengagée politiquement, on le voit, hein, les revendications aujourd'hui, c'est contre les riches. C'est pas pour une société meilleure, c'est pour une société où les gens qui n'ont rien, qui travaillent et qui n'ont pas grand-chose, doivent pouvoir boucler leur fin de mois, ce qui est évident. Mais c'est pas l'Europe à laquelle on a inspiré. Et puis en plus, il y a la question des migrants, on n'arrête pas de compter, etc. Il n'y en a pas tellement, mais ça provoque des fantasmes et des peurs, et nous ne sommes plus le pays d'accueil. Et puis, je le dis, là, dans toute l'Europe, le cauchemar, c'est évidemment des gouvernements de plus en plus populistes, d'extrême droite, j'allais presque dire de showbiz, complètement incompétents, contre l'excès d'expertise, d'anonymat des dirigeants et l'Europe de Bruxelles. Donc c'est une vraie crise. Et c'est curieux, hein, comme les phrases de Michel Rocard résonnent aujourd'hui. Et puis, à ce moment-là... Alors, l'Europe sociale n'est pas faite, c'est évident. Là, je ne suis pas... compétente, je ne connais pas, je ne suis pas économiste.
Mais je vais en revenir à votre domaine de compétence.
Mais attention, Piketty, dans
l'ouvrage collectif, une certaine idée
très bien choisi d'ailleurs, parle de cette Europe économique. Boucheron parle de l'Europe sociale aussi. Myriam Rovdalhomme de l'Europe de la raison. Et Tony Negri de l'Europe en permanence contre elle-même. Bon, bon.
J'en reviens à votre champ de compétence, Elisabeth Kronesco. Où est-ce que vous voyez, vous, la réactualisation? Ce sont vos mots d'un surmoi paternel. Cette libération jouissive d'un ça devenu incontrôlable.
C'est-à-dire, ce que je vois, c'est la déconstruction des grands récits, qui est inévitable. Il ne faut pas rêver d'une nostalgie. Les grands récits, ça repose en effet sur l'idée du primat de, je ne dirais pas du surmoi paternel, mais le père, l'armée, l'église, la famille... telle qu'elle a été constituée par l'histoire avec cette domination qu'on peut appeler paternalocentriste. Bien. Alors, tout ça, les mouvements d'émancipation des femmes, les mouvements d'émancipation des homosexuels, des minorités, c'est parfait, ça fait partie de l'Europe des Lumières. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il faut lutter pour une abolition des grandes représentations symboliques. Il y aura toujours une autorité. L'abolition de la fonction, je dirais, répressive du chef, ça ne veut pas dire pas d'autorité. Là, il faut être très freudien, il faut de l'autorité. Il faut de l'autorité. Donc, je crois à l'État et non pas à une société tribale, purement individualisme. Je pense aussi que les grands mouvements d'émancipation peuvent tourner en leur contraire. Franchement, je l'ai dit à propos du phénomène « balance ton porc », qui est d'ailleurs oui à la dénonciation des infamies, oui. Mais attention que ça ne devienne pas un système de dénonciation systématique de toute autorité ou même des hommes. Les excès des mouvements d'émancipation, il faut y réfléchir très sérieusement. Je dirais aussi que...
Certains excès permettent parfois des coups d'accélérateur aussi.
Ça c'est pas un excès, le coup d'accélérateur. Le coup d'accélérateur est nécessaire. Ensuite, si vous voulez, il y a l'émancipation, puis le coup d'accélérateur, et ensuite, il faut quand même qu'on revienne à des choses plus nuancées. On l'a avec l'anticolonialisme, je suis une militante de l'anticolonialisme, mais aujourd'hui, les notions de racisé, de retour à une identité différentielle affirmée par la race, le retour au fond de la notion de race, alors qu'on l'abolit en critiquant le colonialisme, ne va pas. Donc on va être obligé aujourd'hui de réfléchir à la raison, à la rationalité, et non plus à l'avancée vers... des différences tribales. Je suis convaincue que l'Europe va être obligée de réfléchir à ça, quel que soit son mode de gouvernement. Nous sommes laïcs, universalistes en France, on a un État jacobin, mais les autres pays ont aussi une laïcité. Et d'ailleurs, elle est obligée de la réaffirmer contre l'obscurantisme religieux, même si on a l'impression que ça vise l'islamisme radical, mais ça peut viser tous les intégrismes.
Parce que vous disiez tout à l'heure que l'Europe est déchristianisée.
Ah oui.
Pourtant, beaucoup se revendiquent aujourd'hui des racines chrétiennes de l'Europe, de ses valeurs chrétiennes, dans une recherche de commun, probablement.
C'est un faux débat. Les racines de l'Europe sont chrétiennes, point barre. Alors après, c'est une histoire. C'est pas en voulant rétablir de la religion de façon intégriste qu'on va retrouver ses racines. Elles existent dans notre passé, dans notre inconscient. Mais la déchristianisation, c'est autre chose. Ça n'est plus la foi ni la religion qui unit les peuples, c'est une culture. Voilà. Et cette culture, c'est-à-dire la christianisation, est en train, elle aussi, de s'en aller. Donc la déchristianisation, et je remarque qu'elle va de pair avec la désocialisation, c'est-à-dire ces référents qui ont été si importants encore au XXe siècle, mais qui se défont. L'échec du communisme fait qu'on n'a plus l'Église rouge qui, en quelque sorte, éduquait les peuples à l'idée de la lutte de classe, à l'idée de leur émancipation. Et nous n'avons plus la culture chrétienne. Je crois que Jérôme Fourquet l'a bien montré dans son livre que j'ai lu. On n'a plus l'Europe chrétienne au sens de la culture. Alors il faut faire avec pour repenser comment ça peut se transformer.
Invité jusqu'à 13h30, la psychanalyste et historienne Elisabeth Roudinesco, à l'occasion de sa contribution à un cycle de conférences donné l'an passé à l'École Normale Supérieure avec Patrick Boucheron, Antonio Negri, Thomas Piketty ou encore Myriam Revaud-Dallon autour d'une idée, une certaine idée de l'Europe et qui est éditée à partir du 1er mai chez Flammarion, ses actes de cette série de conférences sous le titre donc Une certaine idée de l'Europe. Il est 13h21 sur France Culture.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Un jour viendra et ce jour-là, vous vous sentirez une pensée commune, des intérêts communs, une destinée commune. Vous vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils du même sang et de la même race ce jour-là. Vous ne serez plus des peuplades ennemies, vous serez un peuple. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, pour vous, principalement cet espoir formulé à l'époque par Victor Hugo? Qu'est-ce qui empêche qu'il se concrétise, que cette quête aboutisse?
L'absence de désir d'utopie. L'absence de référents culturels généraux et l'idée que c'est un peu chacun pour soi qui a été induite par le marché. Et ça, parce que ceux qui contestent le marché sont aussi ceux qui contestent même les élites, même même ceux qui rêvent, en quelque sorte, de ce désir d'Europe. Je pense qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui, dans l'Europe, un désir de fascisme chez les peuples, un désir de fascisme chez un certain nombre de gouvernants populistes ou nationalistes, un désir d'autoritarisme plus que d'autorité, et que ce qui a beaucoup de mal à se faire entendre, c'est cette parole hugolienne, c'est-à-dire un jour viendra, et il faut lutter pour que ce jour vienne. Si on prend l'histoire du printemps des peuples arabes depuis 2011, on voit que là, au départ, il y avait cette revendication démocratique. Elle est toujours, hein. Ça passe ensuite par le contraire, des massacres, des guerres, des dictatures. Mais finalement, une fois que l'idée est de liberté et d'Europe sociale est lancée, elle est là. Elle est là en permanence. Maintenant, il y a des époques où il y a ce retour vers l'obscurantisme. On y est. Maintenant, trouver les solutions.
Contre l'obscurantisme, il y a peut-être besoin de rallumer les lumières. Vous faites d'ailleurs à travers ces pages un plaidoyer pour une Europe philosophique qui valorise une histoire commune contre une Europe de la technocratie et du surmoi, retrouver un esprit collectif. Imaginez peut-être nouer un nouveau contrat social. Je vous propose d'écouter les mots de la philosophe Céline Spector.
Je crois qu'il faut essayer de penser comment l'Europe des Lumières infuse les débats politiques contemporains, ce que l'Europe des Lumières peut nous apporter, absolument, aujourd'hui encore, sans forcément vouloir évidemment répliquer les débats qui ont eu lieu en Europe. Je prendrai un seul exemple, l'idée d'un contrat social européen. Il me semble que c'est une idée qu'il faut absolument essayer de mettre en exergue pour essayer de repenser le lien entre cette nouvelle structure un peu confédérale, mais pas tout à fait, et puis les souverainetés telles qu'elles se sont constituées. Que signifie un contrat social européen et quelles sont ses fins?
J'allais vous le demander.
Alors, par exemple, je donne juste cet exemple, mais Rousseau, dans ses écrits sur l'abbé de Saint-Pierre, que j'ai co-édité avec d'autres collègues, Rousseau pose le problème. Voilà. Il défend à un certain niveau l'idée d'un contrat social européen comme seule solution possible au problème des guerres récurrentes en Europe. Et donc, dans ce contrat social, qu'est-ce qu'on essaye de mettre? Il faut bien des fins communes. Et ce qui est propre à Rousseau, par exemple, c'est l'idée que la liberté doit faire partie des fins fondamentales du contrat social européen. Donc on pourrait dire la liberté, la paix et la justice sont nos trois valeurs suprêmes, cardinales. Et évidemment, ce sont elles que l'on retrouve plus ou moins dans les grandes valeurs, dans les grands principes qui fondent aujourd'hui l'UE.
Céline Spector, philosophe, elle était interviewée par notre confrère Frédéric Worms dans Matière à penser sur France Culture l'an passé, Elisabeth Roudinesco. On a là le socle pour vous à travers ces trois valeurs.
Avec ça. Faut pas oublier que les Lumières, le philosophe des Lumières français, était absolument européen, à une époque pré-révolutionnaire.
En fait, tout le monde était européen avant que l'Europe existe, et maintenant que l'Europe existe, il n'y a plus personne qui se sent européen.
Il y a quand même un problème. C'était l'Europe. C'était l'Europe qui n'était plus l'Europe spirituelle de la chrétienté organisée autour de la foi de Dieu. C'était l'Europe déjà laïcisée. C'est les hommes des Lumières qui aspiraient tous, même avec leurs contradictions, au nouveau contrat social. Elle l'exprime très bien, évidemment, à propos de Rousseau. Les textes de Rousseau sont magnifiques. Mais malgré leurs divergences, ils étaient tous européens. Et d'ailleurs, la Révolution française était au départ européenne. Elle l'a d'ailleurs toujours été, puisque la question a été que c'était la guerre civile, c'était pas du tout, c'était l'idée de ceux qui voulaient étendre la révolution au monde entier, à la révolution. Écoutez, Napoléon est produit des Lumières en ce sens. Il est produit de la Révolution française et de l'extension des droits de l'homme. Alors bien sûr, ça a eu lieu par des guerres sanglantes. Mais il y a cet aspect-là. Et donc, bien sûr que dans l'état actuel des choses, vous avez raison de signaler qu'elle n'est plus dans les têtes, et que du coup, plus personne en veut, ou alors on veut une Europe des nations, une Europe fédérale.
D'ailleurs, dans la même logique, vous insistez sur un point important. Vous dites, Schengen n'a pas fait disparaître les frontières.
Ah ben
les
non.
frontières, ils existent toujours.
De toute façon, on ne fait jamais disparaître les frontières. Les frontières, elles existent dans les différences entre les peuples. C'est pas parce qu'on a le même passeport et la même monnaie que nous sommes absolument semblables. On n'est pas des clones en Europe. Les langues continuent à exister. L'idée d'homogénéiser les fromages, j'en parle, c'est complètement ridicule. L'idée de vouloir un même mode d'alimentation pour tout le monde, ça ne va pas. L'universel suppose la différence. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il n'y a plus l'universel fondé sur la différence qu'on a ces différentialismes et ces revendications identitaires de type indépendance de la Catalogne. Enfin, voilà. Alors, ces deux mouvements sont liés. Je pense qu'il faut rester universaliste, mais à la façon dont Lévi-Strauss le disait, dans la différence.
Allez, il nous reste une minute, Elisabeth Roudinesco. C'est la question que France Culture pose jusqu'à l'élection du 26 mai prochain. Est-ce qu'on est, pour vous, dans un moment de vérité? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers pour cette élection?
Hélas, ce que je vois, c'est la division. C'est la division. Ne parlons pas de la gauche qui est totalement atomisée. Non. L'enjeu est derrière. Maintenant, politiquement, dans l'état actuel des choses, ça ne va plus. Puis il y a autre chose qui est très frappant politiquement à notre époque. On est entré dans l'ère du vote relatif. Moi, j'insiste, on vote contre quelque chose, mais on vote pas pour un candidat qui nous plairait. Tant qu'on aura le danger, le pénis, le danger de l'extrême droite, le danger, on ne peut pas voter pour, on est obligé de voter contre. Donc il y a aussi ce problème-là, l'atomisation de la droite, de la gauche, et tout se joue avec les extrêmes, et ça c'est extrêmement dangereux. Hein.
Merci beaucoup à vous Elisabeth Roudinesco. Je rappelle que vous avez contribué, participé à ce qui va devenir maintenant un ouvrage collectif, Une certaine idée de la France.
De l'Europe.
De l'Europe, oui d'ailleurs, on se retrouve dans un an pour Une certaine idée de la France. Donc Une certaine idée de l'Europe, c'est dans la collection Champs actuels chez Flammarion et l'ouvrage sera en librairie le 1er mai. Merci beaucoup à vous et à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez qui ont programmé et préparé cette Grande Table des idées, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, à Mathilde Tonfourcade et Antoine Suzarelli pour leur aide précieuse à la réalisation. Aujourd'hui c'était Marie Placet avec Nicolas Slimani. Très bel après-midi à tous sur France Culture.